Nous, aujourd'hui, on va vous surprendre. On va vous surprendre, puisqu'on va parler de mai 68. J'espère que vous n'êtes pas trop gavés, pas trop écœurés, mais que malgré tout ce qui se publie, ce débat, ce sujet, cette commémoration, 40 ans après, vous intéresse quand même. Récupération, ça va du t-shirt à la Fnac, jouir sans entrave, jusqu'au pavé gonflable. Enfin, c'est très rigolo. Mais cette récupération, elle a commencé tout de suite. Je me souviens, moi qui vous cause, d'un gars que je connaissais, qui était tout simplement un copain, et qui prenait les pavés du Quartier Latin, qui les mettait dans les sacoches de son Solex, et qui montait à Montmartre les vendre aux touristes. La récupération se fait très très rapidement. Il expliquait que d'abord c'était difficile de les monter jusque là-bas, qu'il avait l'honnêteté de prendre de véritables pavés, il aurait pu les prendre dans le coin autour de Montmartre, et bien sûr il prétendait que c'était de l'argent pour la cause. Mais alors quelle cause? Parce qu'il y en a eu des causes quand même. Au cours de ces mois de feu et d'ébullition, il y a eu la cause libertaire, la cause étudiante, la cause ouvrière, la cause maoïste, la trotskiste, la situationniste, la cégétiste, etc. Enfin, vous, tout un tas de... Il y a mille mais, on pourrait dire, il y a mille mais. Mais enfin, tout ce mouvement avait quelque chose de... Tous ces mouvements, disons, tous ces mais avaient quelque chose en commun, c'était la contestation réelle de l'ordre établi, de tous les ordres établis. Il y a eu là, pendant quelques semaines, une remise en cause, une interrogation des pouvoirs, du pouvoir et de tous les pouvoirs. Alors, la suite, eh bien, ça a donné quoi? Ça a donné de véritables changements, de véritables révolutions, de véritables réformes et de véritables récupérations. Ce qui est quand même... Aujourd'hui, le discours dominant, c'est l'euphémisation, la folklorisation. Sauf pour quand même quelques auteurs, dont deux que nous recevons aujourd'hui. L'un, c'est Daniel Ben Saïd, que vous connaissez, qui publie, avec Alain Krivine, un 1968, fin et suite. Fin et suite, 1968, fin et suite, où... Il publie des textes écrits pour chaque commémoration, 78, 88, 98, avec d'autres considérations, mais enfin, en rapprochant tous ces textes. Et puis, alors, Ben Saïd, il a assisté à tout ça, il a été un des acteurs et l'un des témoins de mai 68. Il y a un autre livre, celui de François Cusset, Contre-discours de mai. Cusset est né en 68 ou 69, donc c'est la génération qui vient après. Et lui, c'est pour mai, en fait. Contre ceux qui sont contre mai, en fait. Et son sous-titre dit tout, ce cambaumeur et fossoyeur de 68 ne disent pas à ses héritiers. Donc aujourd'hui, on va voir avec deux ce qu'ont été les commémorations. Ce que disent les commémorations de 78, 88 et 98. Comment, à chaque fois, évidemment, c'est vu à travers les lunettes de l'époque, à travers la grille de l'époque, et ce que ça dit sur chacune des époques, et ce que ça dit sur, ben, finalement, une France en devenir, en mouvement. Il faudrait pas oublier, bien sûr, que 68 fut un mouvement mondial, planétaire, ou presque, et, bien sûr, ne jamais oublier de resituer ces quelques semaines dans leur contexte. Voilà notre sujet du jour.
Voilà, mai 68, ça va barder.
C'est là-bas que j'y suis avec François Cusset et Daniel Ben Saïd, 1968, fin et suite.
Flight number 2, arriving from...
Bonsoir. Il y a tout juste 10 ans, la France était sortie de ses rails.
Jean-Jacques Servan-Schreiber.
Des barricades, les travailleurs se croisaient les bras. Il faisait beau. C'était mai 68.
8 mai 1978, TF1.
Les gens étudient, les travailleurs travaillent. La même majorité politique qu'en 68 vient d'en reprendre pour 5 ans. Et beaucoup de ceux qui ont 10 ans de plus ont gardé la nostalgie de cette étrange fête. on avait cru trop vite à une révolution. On se demande maintenant s'il ne s'agissait que d'un grand happening. Que reste-t-il des idées de mai, des slogans de mai, des espoirs de mai? Ont-ils été étouffés, récupérés, oubliés? Ou ont-ils changé plus qu'il n'y paraît, ce pays conservateur?
Alors, on va, et vous le faites tous les deux dans vos bouquins réciproques, je rappelle Daniel Ben Saïd, 1968, fin et suite, et François Cusset, contre-discours de mai. Ce que vous ne manquez pas de faire, évidemment, en bon chercheur et intello que vous êtes, c'est que vous revenez sur les commémorations précédentes. Hein, vous faites l'histoire de l'histoire, l'histoire de la mémoire ou la mémoire de l'histoire, peu importe. C'est-à-dire que vous revenez sur 78, 88 et 98. Alors en 78, je me souviens d'un texte de Régis Debray, qui parlait de la récupération dont Cusset parlait à l'instant. Il avait trouvé l'expression Lili, libertaire, libéraux. Voilà à quoi ça mène. Lui qui n'était pas là à ce moment-là. Voilà à quoi ça mène vos trucs. Ben voilà, vous avez modernisé le capitalisme. En gros, c'était ça. On lui avait donné un coup de jeune, mais le capitalisme avale toujours tout, et vous vous êtes fait bouffer comme d'habitude. C'était en gros le discours de Debray. Il n'y avait pas que ça. Alors, est-ce que vous voulez revenir 78, 88, 98? Quel changement vous voyez? Évidemment qu'à chaque fois, la commémoration se fait à la lumière du présent.
Bah, c'est vachement intéressant. Alors, c'est étonnant, parce que je ne m'y attendais pas. C'est un des points communs au bouquin, c'est qu'on fait vraiment, on s'amuse à faire l'ambiance décennale 78, 88, 98, soit trois moments très intéressants de l'histoire de la France récente, quand même. 78, le bouquin de Debray. Alors le problème du bouquin de Debray, c'est une très bonne thèse sur 68. C'est vrai qu'il est le premier à avoir le courage de dire le résultat. Un des résultats de 68, c'est de mettre les mœurs en France au niveau d'avancement du capitalisme. C'est-à-dire vraiment d'adapter voilà, l'existence, l'existentiel, le culturel à l'économique. Mais moi, je lui en veux un peu de cette thèse-là, parce que c'est exactement ça. C'est, il réduit un événement à ses conséquences. Il l'explique par la fin. C'est pas ce que voulaient faire les gens en 68. Ils souhaitaient pas qu'il y ait des rapports plus informels dans l'entreprise ou que, je sais pas quoi, le mariage d'amour l'emporte sur le mariage de raison. Alors évidemment, après il y a la biographie de Régis Debray qui est qu'il était en prison en Bolivie en mai 68 et qui considère que c'était plus risqué que d'être sur une barricade. Il a sans doute raison, encore que, enfin bon, c'est un autre débat. L'ambiance en 78, c'est une ambiance de retrait, de reflux. On est pendant séquestration d'Aldo Moro par les Brigades Rouges. On est à Paris en plein mouvement dit antitotalitaire avec les nouveaux philosophes qui culpabilisent le moindre quidam se prétendant encore de gauche parce que du coup, voilà, les miradors, c'est de notre faute. On est dans une ambiance quand même de diabolisation de ce qui a fait 68 et pourtant, et qu'à lire Paris Match en 78. En 78, on célèbre 68, c'était romanesque, sympathique, on a bien dragué. D'ailleurs, le Libération, donc le journal de Serge Julie, entame son tournant libéral en disant « Le mieux de 68, c'est ce qui s'est passé après. » C'était l'édito de Julie en 78. Et puis, on pourrait conclure assez simplement l'événement en disant « On s'est bien amusé. » Donc voilà, l'entreprise de séparation du sérieux et du pas sérieux, de la rigolade et du politique, commence en 78. C'est ça l'ambiance.
Voilà, mai 68, ça va barder.
Alain Gessman.
Une autre société était possible puisqu'on le vivait.
10 ans ont passé. Les nostalgiques de mai 68 ressemblent un peu à des anciens combattants. La France a eu depuis 2 présidents de la République et 5 premiers ministres.
Si je vous demandais en quelques mots, mettons même en une phrase, de me résumer mes 68, qu'est-ce que vous me diriez?
C'est la joie, une envie de vivre en mourir.
Ben Saïd, 78.
J'ai découvert le bouquin aussi de François Cusset, et d'ailleurs avec beaucoup de plaisir, parce que moi j'ai repris des textes sans les modifier, en présentant, en mettant en perspective, mais du coup, je ne suis pas retourné compiler voir ce qui s'était fait. Je redécouvre des choses à la lecture du bouquin de François. Alors, c'est effectivement ce contexte-là, et on commence à avoir un regard, de narcissisme mûri. Bon, on s'est bien amusé, maintenant, on commence à passer aux choses sérieuses. Il y a un effet, là, générationnel, même si le mot, effectivement, est discutable. Et puis, il faut se rappeler qu'en France, c'est au lendemain de la désunion et de la défaite de la gauche. Donc, la défaite de la gauche aux élections législatives de 78, qui lui semblait promise, un an avant, ça marque la fin d'une séquence, pas seulement française, mais européenne. C'est-à-dire que l'élan 68, et là encore pas d'un point de vue strictement hexagonal, a traversé l'Europe jusque 76-78, hein, c'est pas synchrone. Au Portugal, le coup d'arrêt, c'est novembre 75. En Italie, c'est le pacte, le compromis historique, et ce qu'on appelle le pacte de Léour, le pacte syndical d'austérité en 76. Et la transition pactée en Espagne, donc le passage à la monarchie contrôlée. Et 78, c'est la fin de ça, d'une certaine manière. Donc il y a un climat dans ce qui restait de gauche radicale qui tourne à l'aigreur, par ailleurs. La trajectoire en Italie, à ce moment-là, le fait d'une violence qui devient d'arrière-garde, d'une certaine manière, c'est ce moment-là. Alors effectivement, là, il y a un divorce, la génération n'existe plus.
Puis 78, c'est le mouvement, enfin si on peut appeler ça comme ça, des nouveaux philosophes. Et là, je m'adresse à Ben Saïd le philosophe et à Cusset le chercheur et le spécialiste de l'histoire des idées. Là, on a les nouveaux philosophes qui arrivent et ceux qu'on avait vus ou qui disaient avoir été, disons, avant sur les barricades, retournent franchement leur veste et vont être les pom-pom girls de la révolution conservatrice néolibérale.
Oui, c'est...
les pom-pom girls, c'est joli.
Effectivement. Alors, je vous montre... celui qui est le principal éditeur et animateur de la nouvelle philosophie, Bernard-Henri Lévy, qui est agrégé de philosophie, journaliste, éditeur. Vous dirigez 3 collections chez Grasset, dans lesquelles ont été publiés la plupart de ces textes de la nouvelle philosophie. Et vous publiez donc dans l'une de vos collections, toujours chez Grasset, votre premier livre, La barbarie à visage humain. À côté de vous, André Glucksmann.
C'est vrai que c'est ce qui caractérise en fait, au fond, je pense, ce mouvement qui est un pur coup de marketing intellectuel. Hein. Les nouveaux philosophes, c'était un dossier dans les Nouvelles littéraires en 76, une belle émission chez Pivot, apostrophe en 77, où on fumait beaucoup sur le plateau et où le décolleté de Bernard-Henri Lévy était superbe. Mais ce qui caractérise plus sérieusement ce mouvement-là et plus largement, c'est vraiment ce que Deleuze appelait la haine de la révolution. Alors, je ne sais pas si c'est la même haine de la révolution que celle des réactionnaires historiques, de Joseph de Maistre ou de Burke. C'est plus compliqué parce que c'est évidemment c'est haine et jalousie, c'est-à-dire que c'est une énergie de contestation qu'ils cherchent à recanaliser dans le sens qui est le leur, qui est le sens géopolitiquement l'atlantisme, l'Amérique contre le communisme et l'Union soviétique, qui est intellectuellement un certain élitisme, la grande littérature, le grand corpus, les grandes idées, le rôle de l'intellectuel. Parce que qu'est-ce qu'ils font par ça? Ils défendent leur beefsteak, hein. C'est ce que disait Jacques Rancière dans un très beau numéro justement pour les 10 ans de 68, les lauriers de mai de sa revue Révolte logique. Il disait voilà, le coup des nouveaux philosophes finalement c'est uniquement une corporation qui se sent inutile, parce que qu'est-ce que c'est que 68? C'est les intellectuels, on en a plus besoin. C'est quand même ça, on oublie que c'est la grande crise de l'intellectuel, 68, parce que tous les intellectuels marxistes ou paramarxistes s'étaient trompés. Ça ressemble pas à ce qu'ils avaient dit, donc... on brûle les livres, ça sert à rien, quoi. Donc, 10 ans après, des gens qui vont dans un tout autre sens politique, qui sont Bernard-Henri Lévy et ses amis, réhabilitent la statue de l'intellectuel avec un tout autre discours qui est le discours moral, humanitaire, médiatique. Il y a des urgences, il y a des guerres, il y a le mal et la fin du monde. Et il faut surtout pas perdre son temps à faire la révolution parce que voilà, on sert les dictatures dans le monde entier. C'est ça les nouveaux philosophes et ça, effectivement, ça donne le ton de la décennie qui suivra. Hein.
Alors à partir de là, bien sûr, le titre dit la barbarie à visage humain, bien entendu, il y a un jeu de mots là que j'assume donc bien sûr intégralement, qui fait penser à socialisme à visage humain. J'ai essayé de prouver comment...
Parce que le socialisme, pour vous, conduira à la barbarie.
C'est pas tellement ça. J'ai essayé de montrer comment le socialisme, tel qu'il existe, tel que l'Occident nous l'a légué, tel que l'Occident l'a fabriqué, ce mot...
Apostrophe mai 77.
Socialisme, comment ce socialisme est une des versions possibles de la barbarie que j'essaye de définir.
Alors, les maîtres penseurs avec Glucksmann. Alors, au fond, vous nous rappelez d'abord que Marx n'a pas été le seul grand philosophe allemand du 19e siècle. Il y en a eu quelques autres et qui ont finalement beaucoup compté.
Oui. En fait, philosophe, le terme, on en discutera tout à l'heure peut-être. Penseur, certainement, et maître, c'est important. En gros, le livre, il est né d'une discussion qui a suscité en... d'une part Solzhenitsyn et puis en France un livre que j'avais fait auparavant,
La cuisinière
et le mangeur d'hommes, où j'interrogeais la capacité qu'avait eu le marxisme de faire avaler un certain nombre de choses, et quand ces choses s'appellent 40 millions de déportés morts dans les camps sibériens, ces choses sont assez grosses. Or ces choses, on les a avalés. Quand je dis « on », je dis les Russes, les révolutionnaires russes, qui étaient sincèrement révolutionnaires et sincèrement russes, qui ont admis sincèrement qu'une bonne partie des révolutionnaires et encore une plus grande partie du peuple russe finissent dans des camps de concentration. Et quand je dis « on », je dis aussi beaucoup, beaucoup de gens en Europe occidentale. Il y a bien sûr les partis communistes qui ont attendu, disons, l'an dernier pour découvrir les camps de concentration en Russie. Mais il y a une bonne partie de la population aussi, une bonne partie des intellectuels.
Pour moi, on fait pas mieux pour comprendre et caractériser sur Daniel le plan Ben-Saïd. Intellectuel l'opération marketing que le petit texte que Deleuze avait fait tirer en plaquette et qui a compris instantanément, y compris, mais ces gens-là sont des nécrophages, ils se nourrissent de victimes, etc. Et alors, là, pour avoir fréquenté de près, non pas Bernard-Henri Lévy, qui était un petit peu à part là-dedans, mais j'ai l'impression que chez certains d'entre eux, alors il y a l'opération réhabilitation, paradoxalement, après avoir écrit les maîtres penseurs, du maître penseur chez Benny Lévy, chez Glucksmann, etc. Mais il y a aussi l'exorcisme de ce qu'ils ont failli être et de ce qu'ils auraient pu devenir. Tous, il suffit de voir comment tourner le rituel interne de la gauche prolétarienne autour de Benny Lévy, de Glucksmann. Il y a réellement du terrorisme dedans, du terrorisme religieux. Entre l'instrumentalisation religieuse du petit livre rouge et le retour à la yeshiva, on est toujours... je vous jure qu'il y a une continuité du rapport religieux à la politique qui s'est complètement retournée. Alors après coup, il se trouve que l'affaire Solzhenitsyn a servi de support à ça... soi-disant découverte, ce qui est quand même une malhonnêteté intellectuelle, parce qu'il ne faut pas raconter d'histoire. On pouvait savoir pas tout. Bien sûr que les archives sont ouvertes.
Ce qui se passait en Chine.
En Chine et en URSS, depuis longtemps. Vassilenka, David Rousset. Bon. Là, il y a une opération idéologique qui dépasse les nouveaux philosophes. Je viens de jeter un coup d'œil, François Cussé le connaît sûrement, le bouquin de Christopherson sur la réorganisation du paysage. On était dans une lutte anti-impérialisme contre libération nationale, les peuples colonisés, le discours de Fanon préfacé par Sartre, etc. Et tout d'un coup, la scène bascule sur un autre théâtre, qui est un théâtre d'ombre, le totalitarisme mythologique tel que le reconstruit, y compris le discours en France, qui n'est pas exactement le même ailleurs dans le monde, et puis la démocratie contre le totalitarisme. Donc c'est un déplacement de la scène politique qui anticipe sur la contre-offensive libérale ou qui l'accompagne.
C'est très très important ce que dit Daniel Ben-Saïd, parce qu'il y a cette opération d'exorcisme, c'est en fait le fond de l'affaire, c'est-à-dire qu'en fait le discours officiel qu'on nous tient depuis 40 ans, qui est celui beaucoup plus largement que les nouveaux philosophes, qui est celui de la classe dominante, pour parler le langage de 68, c'est que l'origine de notre époque contemporaine, c'est pas mai 68, c'est une origine absolument individuelle, qui est pas historique. Sa date varie selon les gens, quoi. C'est quand on est sorti de cet envoûtement-là, quand on s'est libéré de ce diable rouge qui nous habitait, donc on a fait cette erreur de jeunesse de croire dans la révolution, et quelques années plus tard, donc en fait l'origine du monde c'est 72, 73, 74, je sais pas, le moment où il y a ce rite de désenvoûtement qui a pris la forme qu'on connaît chez certains, qui est la lecture du bouquin de Solzhenitsyn, 2 millions d'exemplaires quand même en 15 mois, donc ça a bien marché, quoi. Mais c'est vrai qu'on le savait, cette affaire-là, donc le goulag était connu, donc c'est pas que ça. Mais donc la carrière de toute une génération, en tout cas d'une faction dominant cette génération, 68arde, se base là-dessus, c'est-à-dire que on a fait une connerie, et on est légitime moralement jusqu'à la fin des temps, parce qu'on a reconnu cette connerie, on a réussi à en sortir, et par l'effort qu'il nous a fallu pour en sortir, on est devenu, on a le magistère moral. Quoi. Oui, mais c'est pour ça que c'est des moralistes.
Ça c'est ce qu'on entend ces jours-ci, à l'occasion de ce 40e anniversaire.
Complètement,
c'est
fini.
Dans la bouche de ceux qui ont le monopole et qui ont confisqué cette histoire-là, même si quand même il faut bien reconnaître que la multitude de publications, de soirées, de débats, les déborde quand même. Et j'espère qu'on va continuer de les déborder.
Non, mais c'est même monstrueux, parce que tout ce qu'il raconte là est évidemment une énormité, parce qu'il n'y a pas d'exorcisme, il n'y a pas de diable rouge, il n'y a rien de tout ça. Il y a des gens, qui ont protesté et qui ne sont pas pour autant responsables du goulag.
Giscard s'est montré très intéressé par La barbarie à visage humain de Bernard-Henri Lévy, ouvrage dans lequel cet ancien proche de François Mitterrand se montre plus que sévère pour les idées de gauche. Cet ouvrage servira à lutter contre les milieux intellectuels, dans les milieux intellectuels, contre les partenaires du programme commun.
Alors là, ça commence à faire une série de choses.
François Aubral, Xavier Delcourt, contre la nouvelle philosophie, apostrophe, 1977.
À vous terminer, là, votre temps de parole.
Vous terminez. Là. Bon, alors en ce qui concerne cette droite, il y a quand même des thèmes qui apparaissent dans la nouvelle philosophie, c'est le pessimisme. Alors moi, je regrette, mais ou bien on est pessimiste, ou bien on est résistant. Mais on ne peut pas être les deux.
Vous ne comprenez rien.
Bon. Deuxièmement, le mépris de l'histoire. Et troisièmement, la haine de toute forme de progressisme, ainsi que des gens comme Bernard-Henri Lévy, qui là, ça m'amuse beaucoup, parce que ça me fait penser à l'état de choses, se réclame de l'ordre des choses. On ne transforme pas l'ordre des choses. Et alors là, encore une minute pour vous dire le sens profond de notre intervention, c'est que nous avons le sentiment que la philosophie est bien vivante et qu'elle se passe ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire en dehors. Et alors là, je vous apporte, puisqu'on n'a pas encore parlé de l'aspect publicitaire, je vous apporte Playboy, qui est une revue que vous connaissez, dans laquelle il faut lire des propos extraordinaires sur la nouvelle philosophie, puisque la nouvelle philosophie fonctionne dans Playboy. Et alors je vous donnerai une simple phrase de Bernard-Henri Lévy, qui à partir de là, beaucoup de choses découlent. Je vis dans un espace clos, extrêmement limité, un minuscule village à l'intérieur du village de Saint-Germain-des-Prés. Eh bien, là, c'est pas là que se passe la théorie, c'est pas là que se passe la philosophie. La philosophie, elle se passe ailleurs, dans les revues, dans les collectifs. J'en citerai du genre dialectique, du genre révoltologique, du genre libre, du genre acte de la recherche, où il se passe effectivement des choses, et sans vedettariat, sans avoir besoin de Playboy. C'est ce qu'on appelle la pub philosophique.
Dans votre voix. Bon, alors Bernard-Henri Lévy, là, vous pouvez répondre.
Je répondrai avant, parce qu'il y a un certain nombre de choses là, qui sont tout même un petit peu dures à avaler.
On va en venir à la deuxième commémoration, celle de 88, mais je voudrais qu'on passe par 81. Qu'est-ce que la Mitterrand doit à 68 ?
Bon, d'une certaine manière, il lui doit beaucoup, puisque il a pu incarner ou canaliser, comme on veut, justement, la partie modernisation par rapport aux pesanteurs, etc. Il a hérité du début du déclin du Parti communiste. Le Parti communiste avait réussi à capter les générations militantes et actives du mouvement ouvrier en 36 ou en 45. Il n'a pas réussi en 68. Il n'est pas sur la paille comme aujourd'hui, mais enfin, ça se différencie avec la CFDT. Il y a des espaces qui s'ouvrent. Et le projet de Mitterrand, il était écrit dès 71 dans Ma part de vérité, qui était de transformer tout simplement les rapports de force à gauche. Et il est celui avec De Gaulle qui a le mieux su jouer du Parti communiste. De Gaulle à la Libération et Mitterrand, c'est ce qui fait leur force d'homme politique et leur trait commun à tous les deux, c'est d'avoir compris ce qu'était et comment jouer avec le Parti communiste. Ce qui fait que ceux qui l'ont pas compris, moi ça, je m'excuse d'être un vétéran, malheureusement, mais le congrès de Metz en 79, après l'échec de 78, où Rocard croyait que son heure était venue et qu'il fallait passer déjà d'ailleurs à une troisième force du centre et tout, non, Mitterrand a maintenu l'union de la gauche, parce que c'était le moyen d'étouffer le PC définitivement. Il y est arrivé en 81. Donc aussi bien par l'héritage, disons, d'une gauche culturelle qui a désamorcé son potentiel de subversion sociale, plus le déplacement des rapports de force au sein de la gauche, il doit en grande partie, effectivement, de manière différée, ses succès électoraux à la vague retombante de 68.
Oui, c'est ce qui est sûr, c'est qu'il a compris, et d'autres dans le nouveau PS, comme ça, des années 70, très, très technocratiques, l'ont compris avec lui, qu'il y avait deux figures ultra ringardisé par 68, c'était le bourgeois de droite à l'ancienne, puisque c'était la cible générale de 68, et le communiste orthodoxe, type PCF ou CGT. Donc voilà, il a fait alliance avec le second contre le premier, pour tuer les deux, en quelque sorte. Cette stratégie mène à sa victoire de 81, mais il faut se souvenir de ce mot étonnant de Mitterrand fin mai, juste avant qu'il se présente sa candidature à la présidentielle à la fin du mois de mai 68, où il dit, enfin, tout ça n'est que le psychodrame d'une société en mal de père. C'est un peu ce que dira Jacques Lacan, hein, qui dira en fait, vous avez besoin d'un maître, enfin, vous avez envie d'un maître, et vous l'aurez. Lacan et Mitterrand sont d'accord là-dessus. Ça prouve tout simplement, ce genre de lapsus, qu'il n'était pas exactement fanat de mai 68. Mais en revanche, il a vraiment bien surfé.
Non, mais oui, je voudrais ajouter quelque chose, parce que dans les commémorations ou les remémorations diverses, il y a un point qui, pour moi, là, du point de vue de l'engagement politique, reste crucial, qui n'est jamais abordé, qui est l'interprétation politique de 68. Quel était l'éventail réel des possibles ouverts ? La révolution, mais laquelle ? Il n'y a pas de conseil ouvrier. On l'a fait nous-mêmes de mettre l'accent, les soviets à Saclay, etc. Mais c'est plutôt des exceptions que la généralité. Bon, ça anticipe ce que va être l'IPS, ce que vont être des mouvements ultérieurs. Mais il y a quand même 3 jours de crise politique cruciale à la fin mai. Et Mitterrand, non seulement a compris... Il a rodé son scénario, effectivement, parce qu'il a proposé un gouvernement populaire et la formule qui dit « j'ai proposé un gouvernement sans exclusive et sans dosage, un gouvernement populaire ». Donc avec le PC, c'était pas évident à l'époque, hein, mais en disant et en commentant sa propre proposition, parce que j'étais convaincu qu'en proposant l'entrée des communistes au gouvernement, je rassurerais plus que je n'inquiéterais. C'est des gens d'ordre, on peut leur faire confiance, etc. Et finalement, il a rodé le scénario qu'il a réalisé à froid 15 ans plus tard. Mais ce qui s'est joué là, il n'y avait pas d'alternative en termes politiques, gouvernementales, etc., vu l'état de la gauche. Mais un gouvernement, quel qu'il soit, qui serait arrivé sur la base d'un renversement par la grève générale de la Ve République et de Gaulle, c'était un autre scénario pour les années à venir, que personne ne peut réécrire a posteriori. Mais il y a un point de bifurcation là qui n'a pas été saisi pour des raisons politiques, et qu'on connaît mieux aujourd'hui, on pouvait les soupçonner à l'époque. Mais le bouquin de Xavier Vignat sur les grèves, bon, confirme que les accords de Grenelle, l'acceptation du calendrier électoral fixé par De Gaulle au moment de la dissolution, bon, ils ont joué le jeu de faire rentrer ça, effectivement, dans le lit en juin.
Je propose qu'un gouvernement provisoire de transition et de gestion soit aussitôt mis en place.
François Mitterrand, 28 mai 1968.
S'il le faut, j'assumerai cette responsabilité. Mais il en est d'autres qui peuvent y prétendre au même titre. Et je pense d'abord à M. Pierre Mendès-France. Et qui sera président de la République souverainement et librement, le suffrage universel le dira. Mais d'ores et déjà, pour votre information, je vous annonce... Je suis candidat.
La découverte du tome 2 de cette saga de la génération, Hervé Hamon, Patrick Rothman, après les années de rêve, c'est-à-dire les années...
Yves Morosi, 1998.
Ces événements de mai 68, eh bien, regarde ce qu'on appelle les années de poudre, ce qu'ils appellent
1988,
les années de poudre. Et là, la saga continue aux éditions du Seuil. Romantique, c'est un mot qui convient pour post-68, Hervé Hamon.
Je dirais pas que c'est romantique, non, c'est plus explosif, c'est plus détonnant que ça. Les années 70, ce sont des années où une société se met à jour. Donc c'est des gens qui veulent faire la révolution. Oui, c'est-à-dire que il y a une partie de ces personnages de la génération de 68, bon ben ils ont aujourd'hui, ils ont 40, 45 ans. Alors effectivement, ils ont plutôt réussi dans la communication. Ils ont plutôt réussi. Aujourd'hui, ils sont pas députés, ils sont pas ministres, ils sont pas ou peu dans les cabinets ministériels. Ils sont universitaires, ils sont journalistes, ils ont créé des
on a vu, on a architectes. Vu Julie avec ses cheveux sur les épaules.
Oui, ce qui les intéresse, ce qui les excite aujourd'hui, c'est de changer la vie. Ils ont renoncé complètement, effectivement, à toute idée révolutionnaire. Ils tiennent à la démocratie comme à la prunelle de leurs yeux. Et ce qui leur importe, c'est de changer la vie concrètement, changer la ville, changer l'habitat, changer l'école, etc.
Ouais, changer l'architecture, c'est Gastro qu'on a vu tout à l'heure, Roland. Et puis, on a vu le dernier médaillon, c'était Gouchner.
Alors, on continue, si vous voulez, avec les commémorations. 88
ben 88, pour moi, j'ai une photo qui doit être d'ailleurs dans le bouquin Génération en tête, qui résume tout. C'est Kouchner, mon ex-camarade Henri Weber, bras-dessus, sur les marches du théâtre de l'Odéon, chantant une internationale d'autodérision. C'est la télénovelle à Génération, enfin riche et célèbre. Au moment de la réélection du deuxième mandat de Mitterrand, on est dans l'autocélébration d'une génération parvenue, mais en piteux état, enfin ça dépend de quel point de vue on la considère, qui est parvenue, voilà, et qui donc construit le récit de la continuité de l'héritage 68 comme une simple modernisation culturelle des mœurs, et qui commence à estomper, et même la construction du récit par le bouquin d'Hamon et Rothman.
Génération.
Génération. Effectivement, génération, ça crée une espèce de promiscuité, ce que j'appelle une glue générationnelle, dont tout mon souci serait de m'extraire plutôt que de m'y coller. Et puis, deuxièmement, c'est une approche de l'histoire qui, à travers des biographies et donc des réussites individuelles, c'est une curieuse manière d'écrire l'histoire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, le texte qu'on reprend là, qu'on avait fait avec Krivine un bouquin en 68 qui était mettre la grève générale au centre, parce que le mouvement étudiant est très important, je ne vais pas le minimiser, mais ça aurait été un mouvement comme les campus américains, comme le mouvement des provos, etc., s'il n'y avait pas eu cette conjonction qui marque effectivement la force de rayonnement, et qui fait que parfois il y a confusion quand on parle 68, on n'a pas parlé dans le titre la mai 68 parce que justement c'est une année internationale, mais souvent 68 est résumé à mai à cause de la grève générale, or ça était déjà très relativisé en 88.
Ce soir, le combat des chefs, Jacques Chirac, François Mitterrand, retransmis sur la 5 à 22h30. L'arène, le studio 101 de la Maison de la Radio. Le temps à l'est comme à l'ouest, il y en aura pour tout le monde de la pluie. Malheureusement, prévision Véronique Touillet. 20h, Guillaume Durand.
C'était prévisible, mai 68 est à vendre. L'un des sémillants commissaires-priseurs parisiens, Maître Cornette de Saint-Cyr, met les affiches de mai aux enchères, ce qui peut vous permettre de vous offrir, si vous le souhaitez, Nous sommes tous des Juifs allemands, ou dans un autre registre, C'est la chienlit.
Tu sais, 88.
Bah ouais, 88. Déjà, concrètement, le mois de mai 88, on est en plein deuxième tour. Enfin, c'est la fin de l'élection présidentielle, donc la réélection de Mitterrand, avec des affaires complexes. Le
UVA.
Voilà, UVA en Nouvelle-Calédonie, les otages du Liban, etc. Ça fait un peu d'ombre à 68. Mais le plus bizarre, en fait, en 88, c'est que en 88, mai 68 est tout simplement incompréhensible. À l'air, mais de dater de Mathusalem, d'être un truc préhistorique, ce que ça ne sera pas en 98 pour d'autres raisons, ce que ça n'était pas en 78, qui est quand même peu de temps après. Moi, j'ai regardé un peu la presse, comme d'habitude, le grand roman de 68, les photos habituelles, etc. Mais il y a des petits mots qui trompent pas, c'est-à-dire qu'il y a souvent, ils parlent souvent d'exotisme, de distance, de souvenez-vous. Enfin, il faut faire un effort pour se représenter les barricades. C'est ça, mai 88. C'est que la barricade devient un truc irreprésentable, pratiquement. Parce qu'effectivement, on est dans complètement autre chose. On est dans au bout des années 80.
Dans l'asphalte jusqu'au...
voilà, le fric, c'est chic. La crise économique...
C'est les années tapis.
Les mêmes. Voilà, et le grand narcissisme démographique, pour pas dire glue générationnel, d'une petite faction de 68ards qui veulent surtout pas parler de mai, mais plutôt parler d'eux.
Là, François Cusset, sur son terrain, je rappelle la série d'émissions qu'on avait faites ensemble sur la décennie, le grand cauchemar des années 80. Là, Cusset, il est à la maison dans les...
Effectivement, il y a 30 ans, très exactement, le 24 mai 1968, était signé, après plusieurs journées et nuits de négociations, les fameux accords dits de Grenelle, qui aboutissaient à des augmentations de salaires substantielles et à des changements importants dans la vie de l'entreprise en France. En 68, le mouvement étudiant avait précédé le mouvement ouvrier. Mais c'est la fin des grèves et des occupations d'usines qui a marqué le retour à la norme.
Alors 98
98, c'est un peu différent. Moi, j'arrive pas à donner une tonalité d'ensemble, parce que 98, on est quand même dans un moment de réveil d'un certain esprit critique, d'une certaine gauche critique, dans la foulée de décembre 95, des mouvements sociaux, de tous les mouvements, justement, minoritaires, micro-politiques, comme disait Deleuze, qui ont suivi, c'est-à-dire sans papier, le mouvement pour les sans domicile fixe, droit au logement, les immigrés, les mouvements culturels, les mouvements sexuels. Donc il y a cette espèce de convergence, de grande nébuleuse dans laquelle, finalement, il est assez bon de commémorer mai 68. Sauf que du coup, la génération arrivée à maturité politique avec décembre 95 fait un peu son rentre-dedans, se venge un peu de cette nostalgie insupportable. Donc à la fois, elle s'énerve contre un coup de nostalgie de plus, quoi. Et en même temps, elle y cherche des armes, elle y cherche des outils concrets de lutte théorique et pratique, quoi. Donc c'est un drôle de moment, c'est le moment où il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de mémoires au second degré, où on se souvient des films, on se souvient des livres. Mais je dirais que c'est beaucoup plus d'actualité concrète, c'est beaucoup moins loin en 98 qu'en 88 et qu'en 78. Et peut-être même qu'aujourd'hui.
Ben Saïd ?
Finalement, j'ai un souvenir, c'est peut-être pour moi le 10e anniversaire le plus confus, le 30e anniversaire, parce qu'il y a ce que dit François Cusset, on commence à re-respirer. Hein. C'est, après les grèves de 95, il y a cette nouvelle floraison de mouvements sociaux qui, à mon avis, est court-circuitée très vite par la victoire électorale de Jospin. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui commençait entre 95-97, et puis qui s'est recanalisé, là encore, dans les attentes de la première année Jospin, vite déçu d'ailleurs. Mais en même temps, il y a, peut-être on y a été moins sensible, mais en relisant un peu au hasard quelques... Il y a aussi une lecture là de droite qui est de dire, mais en fait, il y a une illusion d'optique en 68, on a vu le côté... révolution, grève générale, la France. En fait, l'important de 68, c'était la Tchécoslovaquie, parce que c'était la préfiguration des révolutions de velours et de la sortie du totalitarisme ou du despotisme bureaucratique, etc. Donc il y a renaissance des mouvements sociaux, mais il y a aussi de l'autre côté lendemain de la chute du mur et comme justification de l'histoire advenue, disons.
Je voudrais qu'on parle aussi de l'aspect, on l'a évoqué à plusieurs moments, mais cet aspect de grève générale et de lutte ouvrière en 68. Dans mai 68 et ses vies ultérieures, Christine Ross, qu'on avait reçue dans cette émission, c'était une Américaine qui vit à New York, charmante francophone, elle essaye de raconter ce qu'ont été les débordements dans toutes ces grèves dans le monde ouvrier, on peut parler de Peugeot, on peut parler d'un tas de grèves, de Renault, à Flins, et de toutes ces... En fait, c'est un peu mai 68 comme une contestation de tous les pouvoirs à tous les niveaux. Y compris, alors, les citadelles de la CGT, la citadelle du Parti communiste, mise en doute, non pas seulement par les étudiants intellectuels dont vous faisiez partie, cher Ben Saïd, mais par les ouvriers eux-mêmes. Une contestation comme ça, général. Je voudrais qu'on parle un peu de ça, de cette contestation du monde ouvrier par le monde ouvrier.
Mais ça, c'est un des points de discussion, y compris j'aurais... Avec plaisir, avec François Cusset, je pense que c'est difficile à interpréter parce qu'il faut, il y a quand même tendance à rabattre sur le moment 68 une série de phénomènes moléculaires qui se sont développés dans la durée par la suite. Parce qu'il y a ce que vous dites, il y a des comités d'action dans les entreprises. C'est nouveau, vu ce qu'était l'emprise, on a du mal à imaginer aujourd'hui, hein, du PC, de la CGT. Bon, il fallait se défendre physiquement pour pouvoir distribuer un tract aux portes de Renault. Bon, aujourd'hui, on n'imagine pas. Quand on est arrivé sous les murs de Renault, ça devait être le 16 mai, c'était un mur de méfiance, d'hostilité, et qui était entretenu, quand même le discours du PC récurrent en mai, c'était les provocateurs, attention aux provocations. Ce mur a été ébréché, il n'a pas été abattu en 68, c'était... commencer à être ébréché. Alors, il y a des choses qui annoncent, effectivement, le fait que, rendant compte de la nuit de négociation de Grenelle, Ségui se fasse... En fait, il a été assez habile quand on réécoute la bande, quand il va présenter le résultat des négociations à l'Assemblée Générale de Renault, on voit les films, etc. Il a eu l'habileté de présenter, puis quand il a vu que ça se faisait huer, de dire que de toute façon, la CGT n'ayant pas appelé à la grève générale, elle n'avait pas appelé à la reprise, donc se défausser. Il n'y a pas eu d'accord.
C'est le caractère extraordinairement sérieux de la crise actuelle qui seul a permis d'aboutir à des concessions aussi importantes.
Monsieur Ségui, secrétaire général de la CGT, est l'un des principaux négociateurs de ce protocole.
Et nous avons, à la fin de ces délibérations, apprécié ce qui était positif et mis en évidence aussi qu'il restait encore beaucoup à faire.
Mais lorsque le lundi 27 mai, le leader de la CGT présente aux grévistes de Renault le résultat de ces négociations, coup de théâtre, la base refuse d'entériner les accords. À ces revendications s'ajoute une exigence politique, l'instauration d'un gouvernement populaire.
On les voit ces brèches-là, mais des phénomènes réels, ils ont été relativement rares. Il y en a pas mal à Nantes, puis après il y a une archéologie de cette histoire ouvrière-là, parce que les gens écrivaient pas forcément. Donc recenser ce qui s'est passé, c'est encore un travail d'investigation aujourd'hui, ce qui s'est vraiment passé. Le constat qu'on peut faire, c'est que en même temps, on peut le regretter. Mais il faut croire que le discours ou l'espèce d'alternative absurde que résume à l'époque Valdez Crochet, qui était quand même, il faut le rappeler, le secrétaire du Parti communiste, qui dit en fait le choix c'était entre l'obtention de revendications raisonnables, de rattrapage, de niveau de vie, ce qui s'est fait à Grenelle, hein, les droits syndicaux et 30% d'augmentation du SMIC, qui n'est quand même pas rien, imaginons aujourd'hui, ou alors la guerre civile. C'est absurde, c'est une logique absolument binaire qui ferme l'éventail et qui justifie. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que malgré le potentiel énorme de mai, malgré le fait que pour un mouvement d'ampleur inégalée, en durée, en massivité par ses caractéristiques, il ait des résultats qui marquent beaucoup moins symboliquement, du point de vue du mouvement ouvrier, que les congés payés de 36 ou que la sécurité sociale à la libération. Et malgré ça... Disons que les appareils sur l'immédiat, pas sur les 5-6 ans qui ont suivi, mais dans l'immédiat, ont gardé un relatif contrôle. Il n'y a pas eu l'équivalent de y compris du remue-ménage qu'il y a pu avoir dans la CGT Renault en 47, après les grèves de 47 à Renault. Il y a eu un seul dirigeant de la CGT qui a claqué à la porte, Barjonnet. Il y a eu un seul membre, si je me souviens bien, du comité central du Parti communiste, Jean Coin, qui a claqué la porte. Donc, on est au début. Du coup, ce n'était qu'un début, à mon avis, et plus juste que... Enfin, a plus de réalité qu'on l'imaginait au moment où on le criait.
Ce n'est qu'un début, continuons-le, combat. Ce n'est qu'un début, continuons-le, combat.
C'est nous les patrons. C'est nous les patrons.
Ça tient partout.
Yeah. Alors je voudrais qu'on finisse avec aujourd'hui. Récemment, dans les manifs de lycéens, hein, contre la suppression des postes d'enseignants sur le bac professionnel en 3 ans au lieu de 4, etc. Beaucoup de lycéens sont dans les rues, se remuent, ils sont très déterminés, leurs profs avec eux, etc.
Et les autocollants sur 68 s'arrachent.
Voilà. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça va péter, on va remettre ça. Comment vous interprétez ça? Quelle est la part, au terme de ce dialogue qui pourrait continuer indéfiniment, quelle est la part de cendre et de braise dans cette histoire?
Moi, j'ai l'impression, ce que j'ai dit au début, hein, je vais peut-être me répéter, que ce rapport aujourd'hui tel qu'il apparaît, parce que les gens sont en action, ils bougent à l'automne par rapport à la loi de réforme des universités, avec le CPE, avec les banlieues, ça fait 3 ans que sur différents fronts, ça bouge dans la jeunesse. Est-ce que ça va produire une nouvelle vague, une nouvelle séquence politique? Je sais pas. Mais l'important, c'est que du coup, le rapport en 68 n'est pas ni dans la nostalgie, ni dans la frustration. Bon, puisque finalement, oui, c'est vrai que la génération, elle est encombrante. Le dernier poilu est décédé, donc maintenant on va faire le compte à rebours des 68 heures. ça va débarrasser le plancher. Donc on est là-dedans. Et moi, ce qui me paraît très intéressant et qui est trop peu présent, c'est quel est le présent, et pas seulement les lectures, mais maintenant le présent de 68. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui prend des formes de relais? Après, est-ce que ça va donner? On ne sait pas. Mais il y a incontestablement, et d'ailleurs, pour terminer là-dessus, l'opération Sarkozy, entre parenthèses, je crois qu'elle est archi ratée. Hein.
Tu sais, 68 aujourd'hui.
Ouais, alors on peut donner effectivement l'exemple des manifs lycéennes, parce qu'effectivement, c'est pas étonnant que les lycéens se réclament de 68, parce que d'abord, il y a un héritage très très concret. Hein. Ils en ont sûrement marre de cette nostalgie. Enfin, pour eux, c'est nouveau. Et finalement, ils étaient presque pas là au dernier anniversaire décennal. Bon, enfin, ils en auront le cul. Par contre, ce dont ils peuvent se féliciter, c'est qu'il y a un héritage très concret. Hein. Je veux dire, il n'y a qu'à aller voir. Comment est-ce qu'on fait une manif? Comment est-ce qu'on se disperse? Comment on évite la police? Comment on occupe une fac plusieurs jours de suite? Comment on organise la démocratie directe? C'est quoi la démocratie directe? Comment on prend la parole? Comment on fait une AG? Enfin, bon, il y a un héritage très concret. Et je pense que c'est plutôt ça qu'ils réclament que le côté magazine, hein, de la chose. Mais maintenant, une autre question, c'est de savoir si la preuve de la quantité de 68 est nécessairement dans les manifs lycéennes. Et alors là, moi, je ne vais pas ouvrir l'objet de débat un peu brûlant, la patate chaude, mais est-ce que ce n'est pas les émeutes de banlieue, enfin ce qu'on appelle le soulèvement des banlieues? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas là, contrairement à ce qu'on nous a raconté sur des barbares ensauvagés ou sur des musulmans voilà, qui répondraient à leurs imams intégristes ou sur je ne sais quoi, est-ce qu'il n'y a pas là, beaucoup plus sérieusement, constitution d'un sujet politique, constitution très problématique, très difficile à réaliser, tout à fait hétérogène, parce qu'il y a à la fois il y a un mélange de pillards et de vrais, voilà, et de gens qui veulent militer. Mais il se constitue là un sujet politique qui, à mon avis, sera plus probablement le sujet d'un éventuel mai 68 demain que les lycéens en face. Mais après, il s'agit aussi de voir comment est-ce que ils vont travailler ensemble. Ces gens-là.
Moi, je suis d'accord, hein, mais je ne fais pas un ordre d'importance entre
non plus.
Parce que sinon, on reconduit finalement.
Tout à fait.
La polarité, avant c'était les vrais ouvriers en bleu et les étudiants trucs, et là les lycéens pour le droit à l'étude et les banlieues.
Non, t'as tout à fait raison. Je pense que c'est ce que je veux dire par là, c'est que puisque maintenant il y a 80% d'une génération qui est étudiante, quoi, en gros, le mai 68, si on veut chercher une sorte d'homologie, un truc demain qui ressemblerait à ça, dans son ampleur, sera moins centralement étudiant, au sens où l'était mai 68. Et je voudrais juste finir avec juste ce truc tout simple, c'est que, après tout, on nous a raconté depuis 40 ans que tout ça était fini, que ça servait à rien de se révolter, etc. Voilà, le fait qu'il y ait des lycéens qui soient prêts à faire des trucs disproportionnés par rapport à, voilà, même à ce qu'ils demandent, hein, parce que je veux dire, vraiment, ça fait des semaines que ce mouvement dure, il est tenace, et qu'il y ait aussi des soulèvements en banlieue, prouve juste qu'on peut devenir révolutionnaire à toutes les époques. Et il faut se souvenir de cette belle distinction que faisait Deleuze, où il disait il ne faut pas confondre la révolution et le devenir révolutionnaire. Les révolutions, ça échoue toujours, on le sait bien, on n'a pas attendu Bernard-Henri Lévy pour nous le raconter, tout le monde le sait. Celle de 1789, elle finit avec Napoléon, l'américaine, elle finit dans le capitalisme, et 68, on sait comment ça finit. En revanche, ça n'a jamais empêché les gens, disait Deleuze, de devenir révolutionnaires, c'est-à-dire à toute époque, de vouloir développer des possibles radicaux, voilà, et de faire bouger les choses, y compris violemment, dans ce sens-là. Donc c'est ce que les lycéens d'aujourd'hui nous montrent, à mon avis.
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire, aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Bah, comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
C'est vraiment une chouette idée, ces répétitions d'arrêt. On reste là, peinard, à discuter.
On prend surtout l'habitude de discuter avec n'importe qui, n'importe où. C'est ça qui est important.
Et pourquoi on le ferait pas plus souvent? On pourrait le faire tous les jours, on pourrait le faire 10 fois par jour, 20 fois par jour.
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour de bon.
Je suis d'accord.
Moi aussi, je suis d'accord, mais quand?
Voilà, petit extrait de l'an 01, on réfléchit. On arrête tout, on réfléchit et on s'arrête. Merci à tous, merci à François Cusset et Daniel Ben Saïd. Je rappelle le titre de leurs réciproques ouvrages. Contre-discours de mai de François Cusset aux éditions Actes Sud et mai 68, fin et suite de Daniel Ben Saïd et Alain Krivine chez Édition Ligne. Et puis ne loupez pas les projections de films documentaires tournés pendant en mai 68 et avant aussi, avec notamment les films du groupe Medvedkin. Les projections ont lieu du vendredi 16 mai au samedi 24 mai à l'espace Confluence, 190 boulevard de Charonne, dans le 20e arrondissement de Paris. Et toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, la-bas.org. Sophie Moreno et Patrick Henry étaient à la technique aujourd'hui. Yann Chouquet et Coyen Guyenne ont réalisé cette émission, ainsi que Charlotte Perry, qui attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.